Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans le groupe des indépendants, notre artiste se différencie, comme le notent les critiques. Il récolte des compliments, contrairement à certains de ses pairs. Préparons-nous pour la 6e exposition, avec palette et chevalet, installée boulevard des Capucines. Bienvenue chez Hilaire, Germain et Edgar Degas. Étant exécuteur testamentaire de l'écrivain Duranty, Degas et Zola s'occupent de la succession. Lors de la vente des 28 et 29 janvier 81, Degas offre 3 œuvres. Zola rédige la préface du catalogue. Malheureusement, les recettes sont médiocres en soutien de la compagne d'Edmond Duranty, décédée en avril 80.
Une autre manifestation.
En ce début d'année, une 6e exposition des indépendants est à l'étude. Les mésententes entre Caillebotte et Degas sont de plus en plus fréquentes. Dans une lettre à Pissarro, Caillebotte raconte que Degas a apporté la désorganisation parmi eux, qu'il passe son temps à pérorer à la Nouvelle Athènes et rajoute
« Il allègue aujourd'hui des besoins d'existence qu'il n'aimait pas pour Renoir et Monet. Mais avant ces pertes d'argent, était-il donc autre qu'il n'est aujourd'hui ? Non, cet homme est aigri. Il n'occupe pas la grande place qu'il devrait occuper par son talent et quoiqu'il ne l'avouera jamais, il en veut à la terre entière. »
De ce fait, Caillebotte, Monet, Renoir et Sisley renoncent à exposer. Degas y règne en maître avec ses amis, dont Marie Cassatt, Berthe Morisot, Forain, Pissarro, Roard, Zando Meneghi. L'ouverture a lieu le 2 avril 81 et la clôture le 1er mai, au 35 boulevard des Capucines à Paris. 4 portraits de Degas sont exhibés, dont 2 des criminels du procès Abadie. Une blanchisseuse et une sculpture, la petite danseuse de 14 ans, qui ne prendra place dans sa vitrine qu'à la mi-avril. Nombre de critiques sont surpris de la rareté des œuvres proposées, et surtout de la sculpture. Cette dernière attire les sarcasmes de Paul Mantz et d'Albert Wolff, qui clame dans le Figaro du 10 avril.
Il est le porte-drapeau des indépendants, il en est le chef. On l'a dû au café de la Nouvelle Athènes. C'est ainsi que M. Degas règnera jusqu'à la fin de sa carrière, dans un petit milieu. Plus tard, dans une vie meilleure, il planera, toujours comme une sorte de père éternel, Dieu des ratés.
Par contre, Huysmans ne tarit pas d'éloges.
Le fait est que du premier coup, M. Degas a culbuté les traditions de la sculpture comme il a depuis longtemps secoué les conventions de la peinture. Tout à la fois raffiné et barbare avec son industrieux costume et ses chairs colorées qui palpitent, sillonné par le travail des muscles, cette statuette est la seule tentative vraiment moderne que je connaisse dans la sculpture.
Degas se remet au Sanipic en avril 81 avec un tableau pour le frère de Marie Cassatt, Alexander, scène de Steeplechase. Le 18 juin, il vend à Durand-Ruel la leçon de danse pour 5000 francs. Alexander la rachète 6000 francs aussitôt. Degas reçoit la visite de sa sœur, Thérèse Morbilli, et de sa cousine orpheline, Lucie Degas. Thérèse écrit à son mari qu'Edgar est célèbre, mais que la vie est trop pénible près de lui, qu'elle ne peut pas lui demander de l'argent. Sa sœur Marguerite lui vient en aide et lui prête 100 francs. Degas continue de vendre à Durand-Ruel un pastel 800 francs, femme faisant sa toilette.
Préparation pour la 7e exposition.
En novembre 81, Gauguin s'occupe de chercher une salle pour la prochaine exposition de 82. Il écrit à Pissarro.
Je crois que si Degas ne met pas trop les bâtons dans les roues, c'est une occasion superbe pour faire notre exposition, jour et soir à la lumière.
Au cours de ce mois, Edward Maybridge publie ses travaux photographiques sur le mouvement réel des chevaux au galop dans la revue Le Globe. Déjà, en 78, ils avaient été présentés dans la brochure La Nature. Une démonstration a lieu chez Messonnier dans son atelier. De nombreux peintres académiques, tels Cabanel, Jérôme, Bonnat, sont au rendez-vous, mais pas Degas. Pourtant, ce dernier s'intéresse aux découvertes de Maybridge pour ses études de chevaux qu'il va reprendre fin 80. D'ailleurs, il réalisera ses sculptures équines d'après des photographies. Le 8 décembre, il se rend à la présentation publique de la future vente aux enchères de l'atelier Gustave Courbet, exilé en Suisse et décédé en 77. En ce début d'année 82, L'artiste emménage au 21 rue de Pigalle. Il prend à son service une nouvelle gouvernante, Zoé Clausier, qui lui sera fidèle jusqu'à la fin, en remplacement de Sabine Ney, qui vient de mourir.
Contestation à la 7e exposition.
Le 1er mars 82 ouvre donc la 7e exposition des artistes indépendants. Au 251, Faubourg Saint-Honoré, chez Durand-Ruel, Caillebotte et le marchand d'art sont les deux instigateurs de cette manifestation, réunissant les membres originels. Évidemment, Monet, Renoir, Sisley y sont présents, de même que Pissarro, Berthe Morisot, Gauguin, Vignon, Guillaumin et Caillebotte, bien sûr. Bien qu'il ait réglé sa cotisation, Degas refuse de participer, entraînant avec lui la défection de Marie Cassatt, Zandomeneghi, Raffaelli, Roire. Quant à Cézanne, il est présent au salon pour la première fois, grâce à Guillemet. Degas réussit à vendre à Durand-Ruel une toile, petite modiste, pour 2500 francs. Les modistes feront l'objet d'une série moins importante que celle des danseuses, des courses ou des repasseuses blanchisseuses, sans oublier les femmes à leur toilette à venir. Degas prend plaisir à croquer ses amis, qui examinent, essayent, toutes sortes de chapeaux colorés, recouverts de plumes, de fleurs, de tissus. Il nous laisse chapeaux nature morte, chez la modiste Marie Cassatt, à New York. Puis, chez la modiste, un pastel d'une grande beauté, Lugano, collection Thyssen-Bornemisza, de nos jours à Madrid, au musée du même nom. George William Thornley en fera une reproduction, lithographie, Institut de l'art de Chicago. Degas demandera à corriger le dessin en 87 et confiera à Thornley.
Il faut faire les choses d'art plus à son aise. Une réconciliation difficile.
Côté familial, il ne faut pas oublier les relations tendues entre Degas et son frère René. Ce dernier demande à son beau-frère Edmondo Morbilli d'intercéder auprès d'Edgar pour un rapprochement. Malheureusement, Edmondo décline la requête, considérant le peintre très borné. À sa femme Thérèse, il écrit le 27 juin.
Edgar fait probablement de la bonne peinture, je ne le conteste pas, mais quant au reste, il faut le considérer toujours comme un enfant pour ne pas lui en vouloir.
En juillet 82, Durand-Ruel monte une exposition à la White's Gallery, 13 King Street à Londres. 4 Degas y sont exhibés, dont chez la modiste. Pendant ce temps, l'artiste s'arrête chez les Alévi à Étretat, avant de se rendre en Suisse en septembre, près de Genève. Le mois de novembre est marqué par le décès de Lydia Cassatt, sœur de Marie. Durand-Ruel achète le 8 décembre une scène de jouquet de Degas, avant la course, pour 2500 francs. Le tableau sera acheté par les époux Le Roll en janvier 83. De ce geste, une profonde amitié va unir Degas au Le Roll. Début 83, Degas vend toujours à Durand-Ruel, pastels, dessins, éventails. Par contre, il refuse toute exposition personnelle, au contraire de Monet, Renoir, Sisley, Pissarro. Le 30 avril, il apprend le décès de Manet. Il vient d'écrire à Bartholomé.
Manet est perdu. Quelques journaux avaient déjà pris soin de lui annoncer sa fin prochaine. On a dû, je l'espère, les lire chez lui, avant lui. Il ne se doute nullement de son état et il a la gangrène du pied.
Cette perte affecte énormément Degas. Edgar vend et vend bien ses tableaux. Pissarro, qui a toujours été son fervent admirateur, est présent à toutes les expositions du groupe. Il écrit à son fils Lucien le 9 mai 83 pour lui conseiller le livre « L'art moderne » d'Huysmans.
Tu seras aussi satisfait de constater en lisant ce livre que tu n'es pas le seul à avoir un grand enthousiasme pour Degas, qui est certainement le plus grand artiste de notre époque.
Degas passe en août au Mini-Lubert chez les Valpinson pour un portrait de leur fille Hortense. Puis, en octobre, découragé, Edgar écrit à son ami Henri Roire à Venise.
Nous avons enterré Alfred Ognaudet samedi. Vous rappelez-vous la soirée des guitares à la maison il y a presque un an et demi ? Je faisais le compte de mes amis présents, nous étions 27. En voici 4 de partis.
Mademoiselle Cassatt devait venir.
L'une est morte.
Marie Cassatt.
Degas encouragera, conseillera Marie Cassatt dans ses activités artistiques, la gravure, faisant office de maître en quelque sorte. Il l'a dépeint en 79-80 dans Au Louvre la peinture Marie Cassatt, Bibliothèque nationale de Paris. De dos, Appuyée sur son parapluie, elle observe les tableaux accompagnée de sa sœur Lydia, lisant le catalogue des expositions. Une collection privée détient deux études de Marie Cassatt au Louvre, au fusain et pastel sur papier gris. En 84, il l'immortalise aussi dans Miss Cassatt assiste dans les cartes, tableau à l'huile à Washington. Portrait dont le modèle ne sera pas satisfait et qu'elle ne voudra pas léguer à sa famille. Puisque nous y sommes, continuons notre découverte des œuvres de Degas.
Du côté du musée.
Revenons à la petite danseuse de 14 ans, seule sculpture que le peintre exposera de son vivant. De nombreux croquis, datés de fin 70, et une maquette en cire, en retracent l'élaboration. Marie von Goethen, âgée de 14 ans en 78, posa pour la petite danseuse. La sculpture devait être terminée en mars 80, car elle était mentionnée au catalogue de la 5e exposition et la vitrine installée.
Mais pourquoi ne fut-elle pas exhibée ?
Sans doute une modification de dernière minute à apporter, chère aux indécisions de Degas. La statuette de cire du petit rat de l'opéra est montée sur une architecture de fil de fer et de cordes. Le corps en cire est teinté afin de simuler la chair, mais quelques imperfections sont visibles. Il est recouvert d'un vrai corsage, tutu de mousseline, de bas et de chaussons de ballet. De vrais cheveux tressés sont noués par un ruban de couleur vert poireau, ruban qui orne aussi son cou. Certains journalistes soulignent le côté animal de la danseuse. Sa bestiale effronterie, pour Mans. Le type de l'horreur et de la bestialité, pour Henri Trianon. Quant à Jules Claretti, il note que
le museau vicieux de cette fillette à peine pubère, Fleurette de Ruisseau, reste inoubliable.
Huysmans, dans l'art moderne, après l'avoir décrite, continue ainsi.
Telle est cette danseuse qui s'anime sous le regard et semble prête à quitter son socle.
En 1903, Louisine Eve Meyer projettera d'acquérir la statuette après une visite chez Degas. Mais ce dernier veut refaire la figurine car la cire a foncé. Il pense alors au bronze ou plâtre couvert de cire. Il demande conseil à Bartholomé pour la fondre. Les années passent et en 1918, Madame Eve Meyer réitérera sa demande d'acquisition. Les tractations entre cette collectionneuse par l'intermédiaire de son amie Marie Cassatt et la famille Fèvre, nièce et neveu de Degas, durèrent des années. En mai 1921, la figurine réapparaît au public, 40 ans après son exhibition de 1881. L'exposition aura lieu chez Ébrard. Madame Eve Meyer renoncera à la statuette en cire et acquérera le premier numéro en bronze de la grande danseuse. Plus d'une vingtaine de bronzes furent tirés. Deux moulages en plâtre furent trouvés dans l'entrepôt Ébrard, dont un est dans la collection Paul Melon, Virginie, aux USA. Un exemplaire en bronze est au musée d'Orsay. Degas continue de brosser les danseuses sur scène, en coulisses. Il exécute pour Alexander Cassatt un tableau à l'huile, La leçon de danse, musée d'art de Philadelphie. D'un format presque carré, la toile est coupée dans une oblique montante. Le côté supérieur gauche monte un groupe de danseuses en exercice devant une fenêtre donnant sur les toits et les cheminées. La partie inférieure, quant à elle, décrit une mère assise sur une chaise, le petit journal à la main, à côté de laquelle se tiennent deux ballerines et le maître de ballet, vu de côté. Deux danseuses sur scène, de 80, collection privée, est une œuvre remplie d'une féerie de couleurs bleues, vertes, roses, jusqu'au tutu fleuri des deux danseuses, dont une réajuste l'épaulette de sa camarade en mouvement. Le cadrage particulier, ligne de fuite oblique déportant les deux ballerines sur la droite, procède des estampes japonaises. À propos de ces danseuses, Edgar avoue.
Aucun art n'est moins spontané que le mien.
En effet, que d'heures de croquis et d'études préliminaires il a fallu pour fixer une attitude. Nous venons de découvrir un Degas sculpteur. Je vous invite à retrouver sur cette même antenne prochainement Voyage en terre de couleurs, abordant un Degas épris de femmes à leur toilette.